Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 44e épisode de Torréfaction, salut Kef.
Ça va Fasquille?
Écoute, ça va bien, on est ensemble comme toutes les semaines pour notre petit round-up de l'actu, notre petite sélection de news, ou moins news en fait, hein, mais des choses qu'on a vu passer cette semaine et qu'on estime qui pourraient vous intéresser. Et on va commencer avec du gaming et l'incontournable PUBG, on se dirige vers du Rage Unlock.
Putain, j'imagine les mecs qui ont fermé le podcast en faisant genre putain. Un PUBG pour la 42e fois de l'année, ça en 44 suffit. Podcasts. Ouais, bon, alors vite fait, donc c'est l'anniversaire, donc il faut quand même un petit peu en parler, ça fait un an que nous perdons notre vie sur ce titre. Mm-hmm. Et donc effectivement, il y a une histoire de Region Lock, mais c'est pas du Region Lock, parce que tu vois, c'est pas, ils ont dit qu'ils en feraient pas. Donc ils vont pas revenir sur leur promesse, entre guillemets. Mais il va y avoir certainement des tests qui vont aboutir à un pseudo Region Lock, parce qu'ils vont essayer de classer les joueurs en fonction de leur ping.
Bah oui, normal.
Et globalement, ils vont faire en sorte que tu ailles automatiquement et un petit peu forcé sur les serveurs où ça marche bien pour tout le monde, pour éviter d'avoir des joueurs qui se téléportent derrière les murs, qui prennent des balles et qui meurent. Enfin, ou en tout cas, quand ça t'arrive toi, t'es vénère parce que tu crois que t'as évité le mec et finalement tu meurs derrière un mur en prenant une balle qui a fait genre un angle droit. Ça nous rappelle les plus belles heures de Counter-Strike dans les années 90, ce qui est un problème en 2018. Donc, ils vont essayer de corriger tout ça. Il y a Fortnite, le concurrent maudit, qui travaille énormément sur ce genre de problématiques réseau actuellement, donc ils sont vraiment obligés de mettre un petit coup de fouet là-dessus. Et puis, à part ce truc-là, on attend un peu de voir. Il y a déjà, d'ailleurs, je précise, hein, si vous pensiez vous débarrasser des Chinois ou des whatever, le pays qui vous embête quand vous jouez, ce n'est pas gagné, puisque de toute façon, il suffira d'un mec qui a un ping. Si par exemple, vous êtes pote avec un gars qui est de l'autre côté de la planète et que vous voulez jouer avec lui, bah, il peut amener ses potes.
D'accord.
Donc en fait, il peut inviter lui après les gens dans votre game. Donc, en faisant un groupe, etc. Par contre, ça devrait limiter. Vous ne risquez pas d'en avoir 50 sur le serveur. Ouais, bref, c'est pour éviter de séparer les familles, quoi.
Tu vois, oui.
C'est mignon. Au moins, ils y ont pensé. Et le truc sinon qui fait un peu râler sur les forums, c'est que pour fêter l'anniversaire, ils ont donc rajouté des skins sur les armes et dans leur fameuse loot box. Et c'est un peu dégueulasse. Enfin, on va pas se mentir, le bon goût n'est pas au rendez-vous tout le temps.
Ah merde.
En cadeau pour notre année on va dire de
fidélité.
De fidélité, mais j'avais plutôt en tête d'avoir un peu essuyé les plâtres.
Oui.
Eh bien, on a une skin orange. Pas très très saillante pour Scarell. Voilà, c'est tout, c'est fini. Il faut vraiment qu'il fasse un effort. En fait, je pense que le business model à ce niveau-là de Fortnite est largement plus un, rentable, deux, intéressant pour le joueur.
Ouais.
Celui qui veut les acheter des trucs peut. Les loot box, c'est un enfer. Je regardais parce que maintenant ils sont obligés de mettre les drop rates pour avoir les trucs les plus intéressants. Il y a quasiment 3-0 avant le premier chiffre. Hein, c'est juste pas possible avec une virgule tout au début. Hein, rêvez pas. Donc moi je trouve ça un petit, enfin je trouve ça scandaleux. De toute façon les loot box, je pense que je vomirais
oui,
dessus. Voilà, je vomirais dessus tout le temps. Et je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à faire ce genre de conneries. Et alors que de l'autre côté, Fortnite, je crois qu'avec leur système, ils ont fait sur la version sur invitation, sur quelques jours, sur la version iOS uniquement, ils ont généré 1,8 million de dollars. Donc globalement, je pense que leur modèle fonctionne. Je pense qu'il serait pas non plus débile de l'adapter, sans forcément tout virer. Hein. Mais donner la possibilité aux gens qui veulent dépenser du fric sans aller acheter des trucs d'occasion entre guillemets à des mecs qui les vendent à des prix éhontés, ça me paraît pas complètement mongolien. Voilà.
Voilà, ça c'était pour les news PUBG. On va parler d'un monsieur que moi j'avais complètement oublié, mais qui apparemment refait surface, notre ami Lord British.
Alors,
Toujours la tête grosse comme une pastèque.
moi je trouve que c'est pas mal qu'on parle de Lord British parce que ça nous change un peu de Star Citizen.
Attends, tu voudrais dire que c'est un rant là ou bien
même pas, non, c'est non. Même pas un rant parce que c'est un test.
Je lâche le bouton alors.
Ouais, repose ce bouton. On pourrait le mettre, mais ça serait un peu
abusé, gâché. Ouais.
Un peu gâché. Donc nous allons parler de quoi avec Lord British? Nous allons parler de la sortie d'accès anticipé de Shroud of the Avatar.
Non, encore un
en
Avatar.
Français. Donc SOTA pour faire court, qui est un MMO qui peut se jouer en solo, oui, ce n'est pas complètement antinomique. Préparé depuis 2013, ce qui est à peu près la date de notre ami Star Citizen, hein, un an près, ça ne joue à pas grand-chose, et qui donc nous arrive aujourd'hui dans un état... Comment vous dire, c'est compliqué parce que je vais écrire un papier sur ce produit, sur ce jeu, sur ce projet, sur comment dirais-je cette vision.
Entreprise.
Ouais, et écoute, les mecs qui bossent avec Lord British ont les mêmes problèmes que les gars qui bossent avec Chris Roberts, c'est-à-dire que il a sa vision qui en 2018 est un petit peu surannée.
D'accord. Hein?
Alors, je vous mettrai, c'est sur podcast, voilà, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de l'état du truc, mais l'interface. Donc, c'est un MMO, je vous passe tout le scénario qui est extrêmement touffu, c'est du Lord British, on se fait plaisir, c'est du RPG occidental à l'ancienne, et à la limite, pour les fans, ça, c'est très bien. Mais dans le concept du MMO un peu moderne, bon, déjà, l'interface, elle est dégueulasse, j'ai vraiment pas d'autres mots, hein. C'est l'enfer. C'est, on dirait, un jeu émulé ou adapté des années 90, avec des boutons, tu comprends pas à quoi ils servent. C'est ultra coloré, mais il y a rien qui est carré. C'est moche. Et puis, toute l'interface d'interaction avec les personnages pendant les dialogues, etc. Et ben, figure-toi qu'ils nous ont ressorti un truc en ligne de texte, tu vois, avec une chatbox au milieu de l'écran en bas, et tu cliques sur des mots-clés pour faire avancer le texte.
C'est vraiment pour les papis du RPG, ça.
Écoute, quand tu vois les deux mecs qui streament sur Twitch le jeu, tu crois pas si bien dire. Il y en a un qui a une touche assez improbable et d'un coup tu comprends le jeu en vrai. C'est différent, tu vois, je suis embêté. Alors ils ont levé que 13 millions de dollars pour ce truc, si tu veux. Donc pour faire un MMO, on se dit 13 millions, c'est beaucoup en même temps par rapport aux 180 millions de Star Citizen, c'est rien. Mais bon, je pense que tu peux aussi gâcher 13 millions de dollars, il n'y a pas de souci. Le seul point potentiellement intéressant pour les gros fans de très nostalgiques des RPG à l'ancienne, ça sera le fait que ce MMO, tu peux le jouer entièrement en solo, en fait.
Ouais.
Et du coup, tu peux déconnecter, le jouer offline et puis faire ton truc dans ton coin, comme si c'était le retour de Ultima de la grande époque. Donc voilà, ça vient de sortir. J'ai déjà eu un patch. Alors en plus, patch ou retéléchargement du jeu, je ne sais pas trop. Le truc faisait quasiment 3 gigas. Il y a un mec qui a dû s'apercevoir qu'ils avaient oublié quelque chose dans le jeu le jour de la sortie. C'est pas possible autrement. Et on va le laisser évoluer, tu vois, parce que faut pas tout jeter. C'est encore que le début. Finalement, c'est un truc qui est un projet. Je sais pas où en est leur financement, mais c'est un projet qui, à mon avis, va durer un moment. Et voilà. Et pour l'instant, si vous aviez un peu la fibre nostalgie qui vous démangeait et que vous étiez à deux doigts de cliquer sur le bouton buy sur Steam, détendez-vous, hein.
Patientez.
Je suis sûr qu'il y a plein de jeux que vous n'avez pas terminés dans votre bibliothèque. Et puis, on s'en reparle, hein, très bientôt. Je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, n'y allez pas. C'est une erreur.
Et on va parler bande son pour changer un peu. On va rester dans le gaming, cela dit, puisqu'on va parler de la BO d'Octahedron.
À la
qui
tienne.
Est sortie. Voilà. C'est un jeu auquel moi, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. J'en ai parlé avec nos amis Pipo et Gotos quand ils sont venus enregistrer les démons. Mais c'est un jeu de plateforme rétro, qui est sorti sur Steam le 20 mars dernier, qui est développé par un développeur qui s'appelle Demi-Monde et c'est publié par nos amis de Square Enix.
Damn.
Donc ça, c'est pas n'importe qui. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'avis sur le portail Steam, mais ils sont tous positifs, donc on va dire que ça se présente plutôt pas mal. Je voulais en parler parce que la bande-son, en fait, propose trois titres d'un bon pote à moi, donc c'est le moment copinage. C'est le producteur américain Derek Howell qui a signé donc trois morceaux inédits pour cette BO. Une BO qui est vraiment sympa, qui compte une vingtaine de titres et qui est disponible en intégralité sur Bandcamp, et elle est rassemblée par un label que je ne connaissais pas, qui est un label japonais, qui s'appelle Brave Wave, et leur tagline en fait est assez rigolote, ils veulent faire le pont en fait entre jeux vidéo, musique et nostalgie.
Oh.
Voilà, je trouvais ça assez mignon.
C'est choupi.
Non, c'est super mignon, et enfin voilà, leur envie, leur volonté de plonger vraiment dans tout ce qui est chiptune pour le coup, on s'en doute, hein. Il y a plein d'artistes connus au catalogue, des noms qui diront des choses aux gens qui sont passionnés par musique de jeux vidéo, et notamment musique de jeux vidéo japonaise. Manami Matsumae, Kenji Yamagishi, Yoko Shimomura, enfin tous des noms qu'on a l'habitude d'entendre dans les démons du midi. et j'en profite du coup pour plugger le dernier épisode. Hein. On est là aussi pour vendre un peu notre soupe. L'épisode
Allez.
54 qui est sorti donc mercredi, qui était un jukebox. Donc vous le savez, hein, les amis, Pipo et Gotos, une fois tous les deux mois, font un espèce de fouillis sans thématique particulière avec les morceaux de musique de jeux vidéo qu'ils ont envie de vous partager. Donc ça, c'est sur le site depuis mercredi. Et puis pour Octaédron, bah, je vous invite à aller jeter une oreille à la bande son que je linkerai sur Bandcamp. Elle est vraiment sympa. On va écouter un petit extrait, 30 secondes, la vite fait, d'un morceau de Derek Howell, et puis on se retrouve après pour continuer les news. Voilà donc Derek Howell, un extrait de Tempest One, morceau donc de la bande son du jeu Octaédron, et on va rester dans le gaming pour une dernière news du côté de Shadow Gun Legends.
Oui, pourquoi tu parles d'un jeu pourri, Caféine? Qu'est-ce qui se passe?
Encore?
Ah, encore? Non, mais il faut prévenir les gens, donc tu vois, c'est important. Non, c'est un jeu qui a une énorme presse actuellement dans le petit monde. Attention, détendez-vous, parce que tout le monde se fait Shadow Gun Legends, j'en ai pas du tout entendu parler de quoi il me parle. C'est si vous allez vous perdre sur des sites qui parlent de jeux mobiles. Et c'est un jeu qui est en fait un FPS, qui est présenté comme un MMO, qui tourne sur des téléphones qui se respectent. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça fonctionne aussi sur Shield. Et si vous avez un gros manque, c'est, vous avez un vrai problème, il vous faut un shooter un peu à la Halo, mais un peu sans avoir besoin de réfléchir, vous pouvez essayer ce truc-là. Alors en solo, c'est pas terrible, hein. Le design n'est pas magique. L'histoire est assez rigolote dans la mesure où tu sens la finesse des développeurs qui sont tchèques. La capitale du monde du futur, enfin là où se passe le truc, c'est Brno. Donc j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Hein. Dans la vraie vie, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça, mais on sait jamais. Et du coup, le titre devient intéressant quand tu arrives à débloquer, parce que tout le début de l'aventure solo, ça fait un peu tuto si tu veux. Et quand tu débloques en fait le PVP. Et là, ça devient rigolo puisque t'as des matchs en fait. Alors t'as un match en un contre un qui est pas terrible parce que tu te cours après sur dans la map, ce qui est pas super malin. Mais en revanche, dès que tu commences à faire du 4 contre 4, ça devient pas mal. Il y a un petit peu de monde sur le jeu. Ils ont quand même recruté plus d'un million de joueurs depuis la sortie qui était la semaine dernière. Du coup, voilà, si vous cherchez un truc qui est gratuit ou le côté free to play, le côté achat, etc., et pas en train de vous pourrir tous les deux écrans, ça se tente. Donc c'est Shadow Gun Legends sur iOS et Android, et vous pourrez nous insulter parce que vous allez voir le design des persos et des armures. Je veux pas insulter ça. Tout un pays, mais genre, en termes de designer, je pense qu'on peut faire mieux, quoi. Tu vois, on peut trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Et voilà. Et en tout cas, oui, ça tourne sur Shield. Et j'en parle aussi pour avoir un petit retour, parce que moi, j'ai discuté avec les gens qui font le jeu. Mmh. Et je leur ai dit, écoutez, c'est bizarre, je viens de l'installer, il plante sur mon iPhone 8 Plus. Je l'installe sur un téléphone Android que j'ai à disposition moderne, il plante au lancement aussi.
Ah merde.
Et il y a que sur Shield où il a tourné du premier coup. Donc, écoutez, j'attends vos retours sur le forum. J'ai l'impression qu'il
y a un petit souci.
Il est un peu pas sec.
On va faire la transition à mi-chemin entre gaming et app avec un truc dont j'ai parlé hier sur Geekzone, c'est Space Engine. Moi, je connaissais pas du tout. Je suis passé un peu par hasard sur Twitch. Voilà, toi non plus. Je suis passé un peu par hasard sur Twitch hier soir. J'ai un peu regardé les streams qui étaient sur la homepage, ce qui m'arrive assez rarement. Il y en avait un donc d'une nana qui s'appelle Skilias, qui fait une sorte de chaîne de vulgarisation sur tout ce qui est astronomie, astrophysique, etc. Donc c'est assez intéressant. Et elle utilisait derrière pour faire ses petites démonstrations un soft que je connaissais pas, qui s'appelle Space Engine. Alors Space Engine, c'est un soft qui est complètement gratuit, et en gros c'est quoi? C'est un univers virtuel, c'est-à-dire qu'ils ont recensé tous les types d'astres qui existent, trucs qu'on connaît, en tout cas sur base de catalogues officiels, hein, que ce soit les catalogues de la NASA, d'Hipparcos. Donc il y a vraiment tout ce qu'on connaît de l'univers qui est dans ce soft, et on peut se balader au gré des planètes, des étoiles, des trous noirs, tout ce qu'on veut. Ça, c'est la première partie qui est déjà assez intéressante quand on se passionne pour l'espace. La deuxième partie qui est encore plus rigolée, c'est qu'on peut faire des expériences, on peut éditer en fait l'univers, rajouter des planètes. Hier par exemple, la nana en question faisait une tentative, une expérience en rajoutant un deuxième soleil à côté d'une autre pour voir combien de temps ça allait mettre pour que les planètes quittent leur orbite et viennent s'écraser dessus.
Ça va bien se passer.
Voilà, je trouvais ça assez rigolo. Non mais voilà, c'est ludique, ça permet de faire des tests pour les gens. Je sais qu'on a un paquet de passionnés de l'espace sur Geekzone, donc je sais que ça va leur faire plaisir. Donc voilà, si vous avez loupé la news hier, je voulais en reparler parce que c'est un chouette soft et en plus il est gratuit. Pour le moment, il y a une version que pour Windows, mais normalement il y a des versions macOS et Linux qui sont prévues dans un futur proche, nous dit le développeur. C'est un mec tout seul qui bosse là-dessus, hein, donc ça c'était à signaler aussi.
Quelle classe.
Voilà, donc si l'espace vous intéresse, si vous aviez toujours eu envie d'aller vous balader dans l'espace, sauter de planète en planète, ben c'est possible. Vous pouvez le faire virtuellement ou alors même en contrôlant un espèce de vaisseau spatial. Enfin c'est voilà, si vous kiffez l'espace, vous allez kiffer ce soft et en plus c'est gratuit, donc votre carte bleue va vous dire merci. Et on va rester dans les apps et on va rester sur Twitch d'ailleurs parce qu'il y a une nouvelle app pour PS4, c'est ça?
Alors oui. Il était temps, les enfants. Je ne sais pas si tu avais déjà utilisé Twitch sur PS4 chez les enfants. Je crois que t'as pas de PS4.
J'ai pas de PS4, donc j'ai échappé à ça.
Voilà. Alors, la première fois que je l'ai essayé, tu vois, tu déballes ta PS4 Pro, t'installes Twitch et tu te dis, bah, ça me fait une plateforme de plus pour le mater. Bon, alors, chez moi, c'est un peu overkill, hein. J'en ai entre l'Apple TV, etc.
Oui, puis ton truc multi-stream aussi, là.
Oui, bah, le truc dont je fais la pub sur Geekzone dont je parle pour pouvoir installer des streams tranquillou sur son Mac ou sur son PC, sur Linux, whatever. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais rajouter la PS4 quand tu es en train de jouer ou tu sais que tu vas être sur la console, ça m'évite de changer de source, etc. Donc, c'était une catastrophe, cette application. Pour faire simple, moi, j'avais un bug qui était fantastique avec les mecs qui loupent sur eux-mêmes, genre de 5 secondes. Et ça avance de 10 secondes, mais ça revient de 2-3 secondes sans arrêt, en fait. Pour être plus précis, c'était juste ultra pénible et t'es sur une PS4 Pro, tu vois, donc le truc tourne sur des téléphones à 50 balles, tu te dis ça serait pas mal monsieur Twitch si ton application c'était pas du caca complet sur PlayStation. Et c'est enfin le cas, ils ont enfin ressorti une version où ils ont tout refait, hein, faut être clair, qui fonctionne maintenant parfaitement. Donc elle est sortie cette semaine sur PS4, ils ont rajouté une nouvelle option de recherche, ils ont refait la homepage, tu as une preview des streams, hein, maintenant, ce que tu n'avais pas avant, un peu à la Netflix quand ils essaient de te vendre une nouvelle série, tu vois. Voilà, tu sais que ça a une gueule d'application un peu moderne. Bon, après l'interface, je suis toujours pas convaincu qu'ils vont dans la bonne direction et c'est toujours un énorme merdier, mais bon, ça fera l'affaire. Et si vous avez une Xbox One, bah sachez que ça débarque pour vous bientôt aussi, puisque les deux versions ont été commencées à peu près en même temps. Voilà, moi je voulais vous dire que
ça existe.
Ça existe. et si vous avez des streams à regarder, bah c'est toujours une option possible. Maintenant, si vous avez une Apple TV, je voulais vous rappeler qu'il y a une app non officielle qui montre à tout le monde comment on peut faire un très bon client Twitch sans s'appeler monsieur Twitch. Ça s'appelle Twitchy, c'est fait par des Français et je sais de sources sûres qu'ils sont en train de travailler sur une version encore plus développée avec une nouvelle façon de naviguer dans les différentes parties qui va être encore plus agréable que ce qu'on a actuellement, alors que la nouvelle version est déjà très très bien. Donc voilà, mais je pense que ça serait pas mal que ces gens se fassent pas racheter tout de suite, parce que c'est comme ça que je préfère regarder Twitch en ce moment.
Et on va terminer les apps avec un petit coup de projecteur sur Facebook Container, c'est une extension pour Firefox qui est sortie cette semaine, je crois, ouais. Dont on a parlé cette semaine en tout cas. Alors on a vu beaucoup un mouvement, on va dire, de massif d'exode de Facebook ces derniers temps, avec toutes les news qu'il y a eu autour de Cambridge Analytica notamment, et puis la manière dont ils collectaient vos données pour les vendre ailleurs. Du coup, bah, nous, on estime que delete Facebook, c'est pas trop une bonne idée, en fait, hein. On s'est déjà exprimé, je pense, sur Twitter à ce sujet-là, ouais. Mais il y avait un papier de Slate qui résumait très très bien le truc. Je vais essayer de voir si je peux vous le retrouver, le linker dans le papier qui accompagne ce podcast. Mais donc, en gros, bah, si vous pouvez éviter de quitter Facebook aujourd'hui, c'est plutôt une bonne idée. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter son emprise. Et c'est justement ce que propose de faire cette extension pour Firefox, donc qui s'appelle tout simplement Facebook Container, et qui va faire quoi? Bah, qui va mettre Facebook dans un container, donc dans un onglet à part, complètement déconnecté de vos autres onglets, de vos autres connexions, et qui va donc empêcher à Facebook potentiellement de vous suivre à la trace comme c'était le cas jusqu'ici. Alors c'est un palliatif, hein, on va pas se mentir, ça résoudra pas les problèmes inhérents à Facebook, mais en revanche, en attendant, ben voilà, ça vous évite d'avoir à supprimer votre compte. Je combinerai ça avec un autre outil dont j'avais déjà parlé, qui s'appelle Social Fixer, hein, qui permet de vraiment configurer la manière dont s'affiche Facebook aux petits oignons. On peut ravoir la timeline chronologique par défaut, sans d'avoir à chaque fois à aller cliquer machin. Il y a plein d'options assez pratiques. Donc voilà, si vous pensiez à supprimer votre compte Facebook, nous on vous conseille plutôt de pas le faire et d'essayer plutôt de limiter donc l'emprise du site avec Facebook Container et avec Social Fixer. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer les deux extensions.
Ouais, si j'ai utilisé les deux et j'aime beaucoup le Facebook Container puisque cette appli, enfin il y a une espèce de petite barre bleue en fait qui va se mettre sur l'onglet. Je trouve que c'est assez la classe. J'avais viré Facebook Fixer, mais je ne sais plus pourquoi. Donc j'ai presque envie de le remettre pour pouvoir avoir ma timeline dans l'ordre again. Mais je ne sais plus pourquoi je l'avais viré. Mais en tout cas, ça se tente. Quoi.
Bon, en fait, il y a un paquet de trucs de configuration, donc il est un peu relou à prendre en main au début. Mais une fois qu'on a bien chopé tous les trucs qui nous intéressent, quoi, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, Facebook Container, Social Fixer. On passe du côté de la culture et je garde la main pour vous parler d'un truc qui va faire plaisir à Fox et sans doute à 3 ou 4 autres personnes dans le monde. C'est le retour de Phil Coulson dans le MCU ciné. C'est vrai, tu es un fan de Phil Coulson.
Moi, j'adore Phil Coulson.
Donc voilà, on était sans nouvelles de lui depuis un moment, hein, puisqu'il est officiellement mort dans le film Avengers. Et puis après, il a eu sa série télé, ce qui a valu d'ailleurs toute une polémique autour de sa résurrection, puisque on considère que dans les films, il n'est jamais vraiment, été ressuscité. Ouais. Alors que dans la série télé, bah clairement, il est de retour. Donc ça a commencé à marquer un peu la dissension entre l'univers ciné et l'univers télé. Et du coup, le fait qu'il y revienne, bah c'est plutôt cool. Alors on va tout de suite calmer tout le monde. Il ne s'agira pas de faire un gros plug avec la série Agents of S.H.I.E.L.D., puisqu'on rappelle que le film Captain Marvel, dans lequel il est supposé revenir, donc c'est un film qui se passe dans les années 90, c'est un espèce de gros flashback. Donc ce sera un Phil Coulson jeune, et il sera pas tout seul, hein, puisqu'il va y avoir aussi le retour de Ronan the Accuser, qu'on avait vu dans le premier Guardians of the Galaxy. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il était quand même assez peu approfondi, je trouve, dans le film.
Mon film perso, enfin, il était top, et le mec joue super bien, quoi.
Ouais, voilà, donc ça sera l'occasion de le revoir. Il y aura Korath the Pursuer aussi, c'est lui qui était incarné par Jimon Unsu, c'est lui qui retrouve Star-Lord dans la grotte tout au début et qui lui demande qui il est. Ah. Pour ceux qui se souviennent, il y aura aussi Nick Fury avant qu'il perde son œil, donc ça c'est plutôt cool. On va découvrir un Nick Fury un peu plus jeune.
Pour que ça t'ait un budget, ça j'imagine.
Oui, ça à mon avis. Et puis rappelons aussi qu'il y aura Jude Law au générique, puisqu'il jouera le rôle de Marvel, donc Mar-Vell, c'est le cri, le Captain Marvel original dans les comics, avant l'arrivée de Carol Danvers, donc il sera incarné par Brie Larson. Oui, tout ça, ça a l'air très compliqué, mais vous avez le temps encore, hein. C'est en mars 2019, mais je voulais juste rassurer les fans de Phil Coulson, il va revenir dans le MCU. On aura l'occasion d'y revenir, on est clairvoyants, mais je pensais que ça valait la peine peut-être de vous partager la bonne nouvelle ici. Et on va finir avec la tech et puis notre rubrique un peu fourre-tout, parler du nouvel iPad.
Oui, il y avait un événement Apple au début de la semaine qui nous présentait plein de trucs autour du monde de l'éducation. Mm-hmm. Et ils en ont profité pour dévoiler un nouvel iPad qui est clairement orienté vers le marché éducatif et en tout cas le marché un peu d'entrée de gamme, pour dire ça poliment, ce qui est un marché qui n'existe pas chez Apple, faut être clair. Ils ont du mal avec le concept de l'entrée de gamme pas chère. Du coup, ce nouvel iPad, il fait la même taille que les autres, c'est-à-dire 9,7 pouces. Il est un petit peu, comment dirais-je, raboté sur les côtés pour tenir dans un tarif qui est de 359 € chez nous avec 32 Go de RAM, ce qui est pas énorme. La version 128 Go, c'est 449 €. Et il est pas là pour concurrencer les iPad Pro ou les iPads un peu haut de gamme, et ça se voit quand on regarde les specs, puisque finalement, à part le fait d'être compatible avec l'Apple Pencil, ce qui n'est pas le cas des iPads non pro avant, si je ne dis pas de bêtises, lui il embarque un chip A10 Fusion, donc qui est une version un peu plus musclée, mais dans les iPhone 8 et l'iPhone 10, on en est au A11, donc on s'attendait à avoir un A11 Fusion, et je pense qu'il va être réservé aux prochains iPad Pro qui devraient débarquer un peu plus tard. Il y a des petites, ruses qui sont utilisées pour garder une marge intéressante pour Monsieur Apple, qui est genre l'utilisation d'un écran qui est de bonne qualité, mais où la façon dont il est monté n'est pas la version super haut de gamme qu'on va retrouver sur les derniers iPad Pro, par exemple, ce qui leur permet de gratter un petit peu d'argent. Après, ça reste une excellente machine à un tarif abordable, donc si vous cherchiez un iPad de qualité sans vous ruiner, celui-ci va se positionner de manière très concurrentielle. Maintenant, leur but, c'est d'attaquer tous les marchés, entre guillemets, éducatifs, sur lesquels ils sont opposés à des Chromebooks, souvent. Alors le problème, c'est que le Chromebook, bah, t'en crames 3 le temps de vie d'un iPad, parce que les Chromebooks, bah, c'est un peu de la merde. Je veux dire, en termes de qualité, les Chromebooks que tu trouves entre 100 et 200 balles, bah, ils sont pas magiques, hein, non plus.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Ah, voilà, il n'y a pas de mystère. Alors après, aux écoles, de voir les budgets, entre guillemets, est-ce que ça vaut le coup d'investir et de garder plus longtemps? Est-ce que les gamins vont pas les casser quand même, etc. Donc c'est un peu compliqué de voir comment ils vont se positionner sur le marché. Mais bon, voilà, c'est sorti, ça existe. Si vous voulez la liste complète des trucs qui ne sont pas intégrés dans cette version, bah, vous n'avez pas ce qu'on appelle le white color display, vous n'avez pas le true tone, donc le truc qui permet d'avoir les bonnes couleurs quelles que soient les conditions d'éclairage. Il n'y a pas de smart connector, il n'y a que la possibilité de brancher des claviers Bluetooth dessus. Il n'y a pas de stabilisation optique sur la caméra, il n'y a pas de 4K vidéo recording. Le truc le plus cheapo ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas la dernière version du Touch ID, c'est la version d'avant. Donc bon, alors ça change pas complètement votre vie, mais c'est quand même un petit peu cheap de la part d'Apple, je trouve. Et le display donc est un laminé, enfin il est laminé, c'est pas exactement la même techno qu'on utilise sur les derniers, donc c'est un petit peu moins bien. Et puis dernier truc qui lui manque par rapport aux iPad Pro de dernière génération, c'est le système audio avec les 4 speakers qui est ultra sympa quand tu mates genre du Netflix dans ton lit, etc., que t'as pas de casque, enfin tu t'en fous de faire chier tout le monde ou que tu joues dans ton canapé. Donc ça c'est voilà, tous ces trucs là ne sont pas intégrés dedans, ce qui leur permet de garder un prix hyper intéressant et de justifier le prix vachement supérieur des modèles Pro. C'est un petit peu de bonne guerre, j'ai envie de te dire. Mais si vous cherchez un iPad pour la famille, pour vos gamins, etc., ça reste un modèle neuf qui va vous faire plusieurs années. Moi, je suis toujours sur mon iPad R2 de 2014, qui a des scores dégueulasses dans les benchmarks quand tu compares par rapport à mon iPhone 8, mais qui fait tout à fait le boulot pour les trois quarts des trucs que je fais, et je travaille dessus, et ça passe encore. Mais je ne vous cache pas que je ne serais pas mécontent de changer.
Donc voilà, nouvel appel, on vous filera le lien pour aller acheter ça et faire crier votre CB dans le billet qui accompagne ce podcast.
Ce qu'on ne fait jamais, nous.
Non, on n'est pas comme ça.
On ne fait jamais crier les CB.
Une dernière news du côté de Belkin qui s'est fait racheter.
Ouais, alors ça, c'est juste la news business un peu rigolote, hein, et, borderline what the fuck, parce qu'elle a fait marrer les observateurs du business en se disant mais pourquoi ils font ça. Donc Foxconn rachète Belkin pour quand même la somme rondelette de 866 millions de dollars.
Pas mal.
La question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est pourquoi ? Parce que Belkin, bah, c'est pas vraiment des mecs qui font des produits de qualité de ouf que t'as envie de racheter pour faire exploser tes marges, par exemple, quand tu t'appelles Foxconn. Et le truc drôle, c'est que Foxconn construit tous les produits des concurrents de Belkin, en fait. Donc tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Donc c'est assez marrant, il y a plein de conversations d'analystes plus ou moins respectables sur le net qui essayent de comprendre le pourquoi du comment de ce rachat. Moi, ça me faisait marrer juste de vous dire que ça passait dans le giron de Foxconn. L'autre analyse de certains qui peut être intéressante, mais qui part sur un terrain beaucoup trop compliqué pour torréfaction, c'est que les mecs disent qu'en fait, c'est une baston Chine-Mainland contre Taïwan.
D'accord.
Au niveau des grosses marques et des fabrications de ce genre d'objets, etc., un peu tech, mais tu vois, les chargeurs, tous les trucs que Belkin peut fabriquer. Et du coup, que ça va un peu plus loin que ce qu'on pense. Écoutez, si vous avez des avis sur la question, vous savez où nous trouver. Moi, ça m'a juste interpellé. Je me suis dit, 866 millions de dollars pour acheter des docks les plus pourris du marché. Je suis pas persuadé que ça soit une super OP, mais on a dû rater un truc parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous qui travaillent sur ce genre de truc. Enfin, j'espère.
Voilà, et pas de rente cette semaine, Jean-Pierre, qui est en vacances.
Ouais, écoute, je suis beaucoup trop fatigué, hein, tu sais. Écoute, on a repris nos mauvaises habitudes. On enregistre tard, j'ai pas beaucoup dormi, il y a des clients pénibles qui viennent nous embêter.
Ben voilà le rentre.
Voilà, tu vois là, voilà, voilà. Et en plus, ouais, si, on va le dire, j'étais chercher mes lunettes cette semaine.
C'est vrai.
C'est mes premières lunettes de vieux et je pense que ça, c'est important de vous le dire.
Ça t'a marqué un coup quand même.
Je pense que là, écoutez, je suis pas mal avec ma tisane et mes lunettes. Je pense que là, on est bien là. On attaque la dernière ligne droite.
Et c'est la fin de ce 44e épisode de Torréfaction. On va retourner à notre tisane et à nos lunettes. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine de 9h pour un nouveau round-up de l'info. Et puis bon week-end, Kaf.
Bon week-end, mon fresquille.
Salut.
Ciao.
Un podcast signé Fresquille. Fresquille.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.